Bonjour à tous, 13e épisode de la chronique L'économie en fait c'est cool et aujourd'hui on va parler du bilan économique du président de la République, Emmanuel Macron. Salut Lignan.
Salut Yann, et au fait, bonne année.
Et oui, c'est vrai, on est encore en janvier et on peut donc se souhaiter bonne année et faire nos vœux pour 2022. Et en parlant de vœux, le mois dernier, le soir du 31 décembre, on a eu droit aux vœux d'Emmanuel Macron, au cours desquels le président a fait en quelque sorte le bilan de son quinquennat. Et justement, le sujet d'aujourd'hui, on va revenir sur le bilan du président, mais en s'intéressant plus précisément aux aspects économiques comme l'emploi, la pauvreté, le rapport aux entreprises ou encore la fiscalité.
Oui, et autant le dire tout de suite, le regard qu'on va porter sur le bilan économique du quinquennat va être assez critique. Pour autant, on va essayer de faire ça le plus honnêtement possible en se basant sur les chiffres.
Alors allons-y, le plus honnêtement possible, le premier chiffre qu'on va voir, c'est le taux de pauvreté. Alors le président a dit que le taux de pauvreté avait baissé au cours de son quinquennat. Alors Lilian, vrai ou faux ?
C'est faux. Et c'est simple, si on regarde les chiffres, le taux de pauvreté était de 14,1% début 2017 et il est aujourd'hui de 14,6%. Ce n'est donc pas une grosse augmentation, mais c'est quand même une augmentation. Et donc le président a donc simplement menti.
Ok, ça commence fort. Le second chiffre auquel on va s'intéresser, c'est bien sûr le chiffre du chômage. Alors, comment le chômage a évolué entre le début du quinquennat et maintenant ?
Selon l'INSEE, le taux de chômage, il était environ de 9,5% en 2017 au début du quinquennat. Et il est estimé pour fin 2021 entre 7,5% et 8%.
Ça c'est bien. Alors, le taux de chômage a baissé depuis que Macron est au pouvoir.
Oui, en effet, mais attention, il faut savoir que le taux de chômage ne concerne que certaines catégories de chômeurs et pas d'autres. Par exemple, les chômeurs qui n'ont pas du tout travaillé sont bien pris en compte dans le taux de chômage, mais les chômeurs qui alternent petit boulot et période de chômage ne sont pas pris en compte dans ce taux. Pourtant, ce type-là de chômeurs ont augmenté pendant le quinquennat.
On a donc moins de chômeurs au sens strict du terme, mais par contre on a plus de personnes qui alternent petit boulot et chômage, et ces gens-là, ils ne sont pas pris en compte dans le taux de chômage.
Oui, et c'est pour ça que de manière générale, il faut faire attention quand on parle du taux de chômage, parce que c'est un indicateur qui ne dit rien sur la précarité et sur la qualité de l'emploi.
Ok, mais alors quelles ont été les actions mises en place pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron pour lutter contre le chômage ?
Il y a eu la réforme de l'assurance chômage dont on a déjà parlé dans une précédente chronique, et qui a été mise en place soi-disant pour encourager l'emploi, alors que comme on l'a vu, elle est davantage une réforme qui vise à faire des économies. Il y a aussi eu la réforme du droit du travail, dont le bilan est qu'elle a eu un effet extrêmement limité sur la création d'emplois. En revanche, cette réforme du droit du travail a plutôt favorisé les employeurs au détriment des employés, parce que cette réforme, elle a permis qu'il y ait plus de travail de nuit, plus de travail le dimanche, elle a permis aussi de limiter les indemnités de licenciement, et elle a modifié la constitution des organes du personnel et la façon de négocier des accords.
Oui, donc alors on a plutôt des mesures en faveur des employeurs et finalement un résultat très limité en termes d'emploi. Mais alors, est-ce qu'on a eu d'autres changements sur les entreprises et le travail pendant ce quinquennat ?
Oui, on pourrait citer les transformations de la SNCF avec la disparition du statut des cheminots et l'ouverture des voies à la concurrence. Et on fera sans doute une chronique spéciale pour parler de ça. On pourrait aussi citer les mesures de privatisation d'entreprises comme la privatisation de la Française des Jeux ou l'autorisation de privatisation d'Engie et des aéroports de Paris. Mais là aussi, ça fera une bonne chronique, je pense. Après, en termes de soutien aux entreprises, on a eu plus largement des mesures qui ont encouragé la création de start-up et qui ont encouragé la création de micro-entreprises avec une certaine forme d'ubérisation du travail. C'est-à-dire le fait qu'on va encourager des gens à devenir auto-entrepreneurs, mais pour finalement réaliser du travail proche des conditions du salariat, mais sans les avantages du salariat.
Et ça aussi, j'imagine qu'on en parlera plus en détail dans une prochaine chronique.
Oui, et enfin, toujours sur des mesures en faveur des entreprises, il y a eu une baisse des impôts des entreprises, comme notamment les impôts sur la production.
Ça nous fait une super transition pour parler des transformations en termes de fiscalité et de redistribution, ou autrement dit, en termes d'impôts et d'aides sociales. Alors, il y a notamment eu une mesure importante qui a été celle de la suppression de l'impôt sur la fortune.
Oui, mais pour être honnête, Emmanuel Macron, il n'a pas supprimé l'ISF, mais il a transformé en un impôt sur la fortune immobilière. Et ce qui change, c'est que pour les plus riches, ça va être uniquement les biens immobiliers qui vont être taxés et plus les titres financiers. Et il s'ajoute à ça la fameuse flat tax, qui fait qu'il y a moins d'imposition sur les revenus du capital, et donc les très riches ont pu recevoir plus de dividendes.
Ouais, donc en gros, on a moins d'impôts pour les riches finalement. Et alors l'idée derrière, et Macron ne s'en est jamais caché, c'est la fameuse théorie du ruissellement. Alors la théorie du ruissellement, c'est l'idée qu'il faut laisser l'argent aux très riches, car quand les très riches ont plein de sous, et ben ça coule comme ça, et puis ils vont investir et favoriser l'emploi.
Oui, mais pourtant si on regarde les chiffres, la suppression de l'ISF et la flat tax, ils n'ont pas eu d'effet sur l'investissement. Tout comme il n'y a eu aucune étude et il n'y a aucune donnée qui témoigne de départ de riches de la France pour des raisons fiscales, contrairement à l'idée selon laquelle nos compatriotes partent et vont investir ailleurs si on les impose trop. Donc supprimer l'ISF, ça n'a pas permis d'avoir plus d'investissements et d'emplois. Par contre, supprimer l'ISF, ben, ça a bien fait perdre 3,5 milliards de recettes par an. Et cette perte de 3,5 milliards, elle a été quelque part compensée par une économie de 3,7 milliards qui s'est faite en coupant dans les dépenses sociales telles que la diminution des APL.
Alors, si je comprends bien, on perd donc 3,5 milliards en supprimant un impôt sur les plus riches et de l'autre côté, on gagne 3,7 milliards en enlevant des aides sociales aux plus pauvres. Ça me paraît assez clair.
Oui, et par ailleurs, les impôts qui ont augmenté sont ceux qui sont supportés par les plus précaires ou par la classe moyenne, comme la CSG ou les taxes sur le tabac et sur l'énergie, ou encore la taxe d'habitation.
Mais la suppression de la taxe d'habitation, ça a profité à tout le monde pourtant, les riches comme les pauvres, non ?
Eh ben non, parce qu'en fait, les plus pauvres, ils étaient déjà exonérés de la taxe d'habitation. Alors que pour les plus riches, la taxe d'habitation, c'était un impôt élevé. Du coup, même si supprimer la taxe d'habitation, ça fait effectivement plaisir à pas mal d'entre nous, bah c'est encore une fois surtout aux plus aisés qu'elle a profité. Parce que si on voulait vraiment baisser un impôt pour faire plaisir à tout le monde, il aurait fallu baisser la TVA, qui est l'impôt le plus injuste, parce qu'on le paye tous au même taux, quels qu'en soient nos revenus.
Alors, on a donc une réforme fiscale avantageuse pour les plus aisés, une réforme du droit du travail avantageuse pour les entreprises, une politique qui culpabilise les chômeurs et les bénéficiaires des minima sociaux. Bref, on peut parler d'une approche libérale, finalement.
Et oui, même si, pour être honnête, le gouvernement, il est sorti de son positionnement libéral et il est intervenu depuis le début de la crise sanitaire en soutenant le travail partiel et en aidant les entreprises. Et ça, pour éviter les faillites, les licenciements et une trop forte paupérisation. Mais là encore, beaucoup de ces aides ont été davantage en faveur des entreprises et sans leur demander de contrepartie. Et surtout, comme l'ont bien fait comprendre le président et son ministre de l'économie Bruno Le Maire, toutes ces mesures n'étaient qu'exceptionnelles et il va bien falloir, entre guillemets, rembourser tout ça. Bref, s'il y a un deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, les orientations économiques seront donc bien toujours d'inspiration libérale et sans doute toujours en faveur des plus aisés.
Ok, bah merci Lilian pour ce petit tour rapide du bilan économique du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors forcément, on n'a pas eu tout le temps de traiter et puis on a choisi un point de vue plutôt critique. Et d'ailleurs, on va continuer à le faire puisque nos prochaines chroniques, elles seront orientées autour de la thématique des présidentielles.
Et pour la semaine prochaine, on va s'intéresser à des acteurs incontournables et présidentiels qui jouent un rôle on ne peut plus déterminant pour chaque élection. Et il s'agit bien sûr des médias.
Ok, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.